France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Un pied dans l'enfance et l'autre dans l'âge adulte. Que se passe-t-il dans le corps d'un adolescent et quels sont les bouleversements physiologiques liés à la puberté ? Cette période de transition, aussi appelée âge gras, dure environ 4 ans. Cet épisode de vie crucial s'accompagne pourtant d'une grande méconnaissance collective. Pourquoi observe-t-on cette métamorphose corporelle ? Pourquoi la voix des garçons mue-t-elle de la sorte ? Pourquoi les adolescents sentent-ils la chèvre ? Et pourquoi ont-ils soif de nouveautés et d'aventures ? La puberté résulte d'un processus neurodéveloppemental complexe qui débute très tôt, dès la vie fœtale. Alors quels sont les mécanismes en jeu dans la production de ce cocktail d'hormones si détonnant ? Puberté, j'écris ton nom. Nicolas Dour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, professeur de biochimie à l'Université Paris-Cité et responsable de l'équipe INSERM, génétique et physiologie de l'initiation de la puberté, qui fait partie de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Et Jean-Claude Carrel, bonjour.
Bonjour Natacha Trioux.
Vous êtes chef de service endocrinologie, diabétologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Cité et chercheur dans l'équipe de Nicolas Deroux. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, qu'est-ce qui déclenche la puberté ? Comment peut-elle être perturbée ? Et auquel cas, quels sont les risques sur la santé ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence par notre archive du jour et une première tentative de définition. Nous sommes en 1950.
Au cours de la croissance, il n'y a pas de moment, sans doute, qui soit considéré comme plus important que la puberté. On y voit la fin de l'enfance et le passage à l'état d'homme. C'est au point que dans une page célèbre de son Émile, Jean-Jacques Rousseau l'a appelé, d'un mot qui a fait fortune, une seconde naissance. Et parmi les cérémonies curieuses qui soulignent sa venue chez les peuples primitifs, certaines figurent la mort et la résurrection. Si elle a perdu dans notre civilisation ce caractère spectaculaire, elle continue à juste titre d'être tenue pour un événement décisif de l'évolution individuelle. Souvent même, le mot puberté sert à désigner toute la période de la croissance qui succède à l'enfance, c'est-à-dire l'adolescence. En fait, puberté et adolescence ne sont pas synonymes. Pour étudier avec précision l'évolution du comportement, il faudrait distinguer nettement deux périodes durant l'adolescence. Le stade pubertaire proprement dit, de 12 à 16 ans, et le stade juvénile de 16 à 20 ans. Mais, afin de donner une vue d'ensemble qui réponde au plan général de ces entretiens, nous envisagerons ici la puberté au sens large, c'est-à-dire comme la dernière grande étape de la croissance, allant de 12 à 13 ans jusqu'à 18 ou 20 ans.
Voilà un extrait de l'émission Université Radiophonique Internationale sur la RDF en 1950. Alors Nicolas Deroux, on entendait voilà cette puberté, une seconde naissance. Au vu de nos récentes connaissances physiologiques, cette expression est-elle toujours juste ?
Oui, ça correspond finalement à une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et en réalité, c'est une période extrêmement importante pour chacun d'entre nous, qu'on a tous vécu bien sûr, et qui a une finalité principale qui est la reproduction et l'acquisition de la reproduction. Donc c'est la seule période où il va y avoir ces transitions extrêmement importantes sur le plan somatique et qui sont le reflet de modifications très importantes, comme on le verra tout à l'heure, au niveau du cerveau.
Jean-Claude Carrel, votre réaction à l'écoute de cette archive ?
Eh bien, elle montre finalement que le grand public connaît mal cette phase de la puberté, que finalement il y a besoin de redéfinir les choses et que même si on est tous passés à travers la puberté, eh bien on a bien souvent un peu effacé cette phase. Les gens pensent que ça a duré quelques jours, que voilà. Et là effectivement c'était intéressant de rappeler que c'est un processus long et c'est important de voir à quel point ce processus se déroule sur le temps.
Oui, comme vous dites, il y a une petite différence dans le vocable des gens. Les femmes, les hommes ne parlent pas du tout de leur puberté de la même façon, Jean-Claude Carrel.
Alors, vous demandez à une femme quand est-ce qu'elle a fait sa puberté ? En fait, elle vous répond quasi invariablement l'âge de ses premières règles. Vous demandez à un homme quand est-ce qu'il a fait sa puberté, il regarde ses chaussures ou le plafond au choix, mais en général, ça s'arrête à peu près là. Et donc, finalement, cette notion d'un processus développemental qui dure plusieurs années entre l'état de l'enfance, où il n'y a aucun caractère sexuel secondaire qui sont apparus, et la fin de la maturation pubertaire, il se passe entre 2 et 3 ans, comme c'était bien rappelé dans l'archive. Et c'est vraiment très contre-intuitif par rapport à la réaction du grand public, qui pense que ces trucs vous êtes tombés dessus du jour au lendemain, et en particulier les femmes qui pensent que la puberté, c'est quand j'ai eu mes règles, depuis point barre, quoi.
Nicolas, de vous, d'un point de vue clinique, finalement, ce processus développemental, à quel âge commence-t-il et à quel âge se termine-t-il? Ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre.
Hein, alors, la variabilité du début de la puberté, comme vient de l'expliquer Jean-Claude Carrel, le début de la puberté est finalement des signes cliniques très particuliers, qui sont donc chez les filles, l'apparition des bourgeons mammaires, qui est donc l'augmentation de la taille des seins. Et chez les garçons, on définit ça comme l'augmentation du volume testiculaire, et on peut comprendre assez facilement que les garçons passent à côté de cette initiation. Et donc, c'est le début des modifications corporelles qui sont en vérité le reflet d'une augmentation de la synthèse d'un certain nombre d'hormones, notamment des hormones synthétisées par les ovaires chez la petite fille, l'œstradiol, ou des hormones synthétisées aussi par l'hypophyse qui vont augmenter la taille du testicule et la testostérone également.
Vers quel âge environ pour les deux sexes?
Alors, globalement, on considère qu'une puberté qui débute après 8 ans est dans une situation normale et qu'il faut chez la petite fille qu'elle ait débuté avant 13 ans. Chez le garçon, il y a un retard, c'est-à-dire d'un an environ. Et donc, les pubertés débutent un petit peu plus tardivement chez le garçon.
Jean-Claude Carrel, on peut peut-être décrire ensemble voilà, ces différentes séquences chronologiques, les différents stades de la puberté. On estime qu'il y en a 5.
Alors, de façon un peu artificielle, on décrit des stades. Alors, il y a déjà un paradoxe, qui est que le terme de puberté renvoie à la notion de poil et l'apparition de la pilosité. Alors que, en fait, comme Nicolas Deroux vient de le rappeler, les signes cliniques qui sont utilisés par les médecins ou par les chercheurs quand ils cherchent à décrire les stades de la puberté ne font pas appel aux poils, en fait. Les poils sont une conséquence de la sécrétion des hormones, mais les signes cliniques que l'on utilise pour dire que la puberté a commencé, c'est effectivement que les seins ont commencé à pousser chez la petite fille ou que les testicules ont augmenté de taille chez les garçons. Donc ça, c'est le premier stade, qu'on appelle le stade 2. Voilà, donc dans notre jargon, le stade 1, c'est le stade qui précède la puberté. Et donc, il y a un stade 2 qui correspond finalement au début du développement des seins ou à l'augmentation du volume des testicules. Alors, les choses sont assez précises. Hein, c'est au-dessus de 3 cm de long. J'incite pas les gens à aller mesurer les testicules de leurs enfants demain matin pour savoir s'ils ont commencé leur puberté. Ça, c'est le boulot des pédiatres et des médecins quand ils suivent les enfants. Et puis ensuite, les choses progressent, le volume testiculaire augmente. Et donc on a le stade 3, 4 et 5 qui correspond finalement au stade adulte. Et en gros, l'évolution d'un stade à l'autre se fait en à peu près tous les 6 mois. De la même façon chez la fille, eh bien voilà, les seins évoluent à la fois en taille et puis aussi en morphologie. Et ça définit le stade 3, le stade 4 et le stade 5, et les règles arrivent en moyenne 2 ans après le début du développement des seins, mais de façon assez variable, et ça c'est aussi quelque chose qui est mal connu, de façon assez variable en fonction de l'âge où commence à pousser la poitrine. C'est-à-dire que si les seins poussent relativement tôt, mettons à 8 ans et demi ou 9 ans, il se passe à peu près 3 ans entre le début du développement des seins et l'apparition des premières règles. Là, évidemment, je dis ça en moyenne, il y a aussi des variations individuelles. À l'inverse, si les seins poussent relativement tard, ça commence à pousser, je sais pas moi, vers 12 ans, et bien là, c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans entre les... Voilà, donc du coup, le déroulement n'est pas une espèce de séquence fixe, le déroulement est aussi une séquence qui est dynamique, et ça, nous, on le voit en tant que clinicien, et Nicolas Deroux gourou qui suit les choses de façon hormonale en dosant en parallèle les différentes hormones, eh bien, il suit ça de la même façon avec les dosages hormonaux.
Alors, en effet, on a des séquences dynamiques, Nicolas Leroux, le corps pousse, mais alors que se passe-t-il dans le corps? Pourquoi le squelette s'allonge-t-il?
Ah, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas uniquement en lien avec la puberté, c'est aussi la conséquence de la croissance. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment de la puberté, il va y avoir un pic de croissance, et ce pic de croissance est en partie lié notamment aux hormones sexuelles qui sont synthétisées par les gonades. Donc l'augmentation de taille très importante au moment de la puberté, que tous les parents remarquent sans difficulté, c'est un mécanisme extrêmement complexe, ce que Jean-Claude Carrel étudie sur le plan clinique beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus d'expertise que moi-même.
Alors par rapport justement à cette croissance et ce pic de croissance, on a plusieurs hormones qui interviennent, Nicolas Leroux.
Alors, en lien avec la puberté, pour rester sur le plan de la puberté, parce que la croissance est dépendante d'une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance, et il va donc y avoir un effet de cette hormone de croissance qui va être boosté par les hormones sexuelles. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la puberté, une augmentation, notamment la poussée mammaire, est en partie due à l'apparition de l'estradiol. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui est le point capital, c'est que pour les médecins, la puberté, le début de la puberté, c'est l'apparition de signes cliniques. Pour les chercheurs, pour les neuroendocrinologues, c'est-à-dire comme nous, ceux qui travaillent sur les mécanismes de la puberté, on peut démontrer, il y a un certain nombre de travaux qui l'ont très bien démontré, c'est que le mécanisme biologique de l'initiation de la puberté précède plusieurs mois, voire quelques années, l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et donc, c'est là où on voit bien, finalement, le continuum persistant, même pendant la petite enfance, de la maturation du système qui arrive, in fine, à une augmentation des caractères, à l'apparition des caractères sexuels secondaires.
Et on reviendra évidemment dans quelques instants sur ces mécanismes biologiques en jeu. Mais d'abord, Jean-Claude Carrel, là on parle de puberté qui se passe bien. Vous êtes médecin et vous prenez aussi en charge les anomalies de la puberté. Quelles sont ces pubertés dites anormales?
Alors, la puberté, évidemment, n'est pas une maladie. Et donc moi, en tant que médecin et en tant qu'endocrinologue pédiatre, on ne soigne pas la puberté des enfants qui n'ont pas de problème. En revanche, nous, on est amenés à évaluer et prendre en charge des enfants qui se présentent soit avec une puberté qui survient trop précocement, soit avec une absence ou un retard important de la puberté. Alors, la plupart des gens connaissent assez mal finalement les définitions, et quand je dis la plupart des gens, c'est y compris dans le milieu médical, c'est souvent assez méconnu les définitions de tout ça. Et donc nous, on considère que la puberté est anormale, ou en tout cas mérite qu'on s'y penche médicalement. Si les seins commencent à pousser chez une petite fille avant l'âge de 8 ans, et de façon extrêmement nette avant l'âge de 7 ans, en médecine, tout n'est pas noir et blanc, il y a toujours un peu une zone de gris. Voilà, en tout cas avant l'âge de 7 ans. Chez le garçon, quand les testicules commencent à augmenter de taille avant l'âge de 9 ans. Et puis à l'autre extrémité, c'est quand les seins n'ont pas commencé à pousser après l'âge de 13 ans, quand les testicules n'ont pas augmenté de taille après l'âge de 14 ans, ou quand il n'y a pas de règles aux alentours de 15 ans ou 15 ans et demi. Voilà. Et donc ça, dans ces situations-là, c'est là que nous intervenons et on évalue les situations, ce qui n'aboutit d'ailleurs pas forcément à mettre en œuvre des traitements et à poser des diagnostics, mais en tout cas, c'est des situations qui mérite d'être évalué.
Oui, Nicolas Leroux, je voyais des termes comme puberté précoce et puberté avancée. Faut faire le distinguo entre les deux.
Oui, c'est un distinguo que Jean-Claude probablement redéfinira plus précisément, puisque finalement, la puberté précoce correspond à une pathologie où l'axe gonadotrope, dont nous allons parler, est réactivé beaucoup plus tôt. Et donc là, il y a véritablement, et c'est important pour les pédiatres, comme l'expliquera Jean-Claude, je pense, c'est que ça peut être le reflet d'une maladie somatique grave. Et donc, dans ces cas-là, il est important qu'il y ait un bilan qui soit fait par des endocrinologues pédiatres bien précis. Maintenant, on est dans une situation où la puberté, c'est quelque chose qui est progressif. Et donc, lorsqu'on parle de puberté avancée, on est plutôt dans une situation d'épidémiologie plutôt que, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Claude, que tu as un problème vraiment clinique.
Écoute, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que là, on vient de dire, en gros, les seins, c'est normal de 8 à 13 ans. Donc, du coup, ça fait, en gros, 5 ans de différence entre le tôt et le tard. Et par rapport à une moyenne qui est, du coup, aux alentours de 10 ans et demi, ça fait une variation de l'ordre de 50%. Si on fait le même type de raisonnement sur la taille, en fait, la variation de la taille, elle est plutôt de l'ordre de 15%. Si vous avez demandé avant l'émission qu'est-ce qui est plus variable, la taille ou la puberté, je pense que la plupart des gens, en fait, pensent que la taille est plus variable que la puberté. Et en fait, la puberté est un des traits, je dirais, quantitatifs dans le corps humain. Qui fait partie des traits les plus variables. Donc ça explique d'abord finalement que les gens sont un peu perturbés par est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard. Et donc du coup finalement ce qu'on appelle parfois puberté avancée, en gros c'est la première moitié de la courbe de Gauss quoi.
Et donc attention en effet à la surmédicalisation de ce type de propos. Alors qu'est-ce qui déclenche la puberté? Quels sont les principaux mécanismes neurobiologiques en jeu? Et quel est cet axe gonadotrope? Restez avec nous.
Tu veux plus cette musique-là?
Putain, frappe, merde!
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
Tu sais quoi?
Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là?
Oh là là! Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier! Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes! Ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle en France maltraitée!
Eh ben, appelle-les! Appelle!
Un clin d'œil avec les beaux gosses de Riyad Satouf. Nous sommes en direct sur France Culture avec Nicolas Deroux et Jean-Claude Carrel et nous parlons de puberté, de ces mécanismes physiologiques en jeu. Cette période extrêmement importante, on vient de décrire ces différentes transformations physiques, cette chronologie du développement, de la maturation sexuelle. Mais maintenant, que se passe-t-il dans le cerveau? Nicolas Deroux, il y a un axe très important qui est en jeu à ce moment-là, c'est l'axe gonadotrope qui relie le cerveau et les organes génitaux. Mais alors, peut-être qu'on peut le décrire. Hein. Quel est déjà cet axe?
Alors, comme la majorité des hormones périphériques, il y a un contrôle par une région qu'on appelle l'hypothalamus, qui est située dans la zone ventrale du cerveau. Et cette région est en contact très étroit avec une autre glande qu'on appelle l'hypophyse. Et donc, il va y avoir des neuropeptides synthétisés par l'hypothalamus qui vont aller contrôler la synthèse des hormones synthétisées par l'hypophyse. Pour l'axe gonadotrope, c'est donc un axe hypothalamo-hypophysaire-gonadique, que ce soit les ovaires ou le testicule. Et donc, il y a des peptides hypothalamiques. Aujourd'hui, alors il y en a plusieurs qui participent au contrôle, mais il y en a un qui est vraiment le peptide principal, c'est la GnRH, et qui d'ailleurs a été décrit initialement par Roger Guillemin, donc prix Nobel de médecine, il y a de nombreuses années. Et puis, il y a un autre peptide qui est tout aussi important, qui paradoxalement s'appelle KIS peptide, et qui est un peptide qui contrôle la sécrétion de cette GnRH. Cette GnRH, elle va venir activer des récepteurs qui sont localisés à la surface de cellules gonadotropes, qui ont pour principale fonction de synthétiser de la LH et de la FSH. Et cette LH et FSH va agir sur les gonades pour contrôler la synthèse des hormones sexuelles, la testostérone chez le garçon et l'estradiol chez la fille, mais va contrôler également la gamétogénèse. Et donc, finalement, la puberté, et donc les signes cliniques de la puberté dont on parlait tout à l'heure, le passage en stade 2 de Tanner, c'est l'augmentation de la synthèse de ces hormones sexuelles ou de la synthèse de la LH et de la FSH. Pourquoi? Parce que finalement, au moment de la puberté, on ne peut pas le démontrer en clinique, parce que c'est impossible à doser, mais en réalité, ça a été démontré chez le singe il y a maintenant une vingtaine d'années, trentaine d'années. Il a été montré qu'il y avait une augmentation de la sécrétion de la GnRH par l'hypothalamus. Pendant toute l'enfance, l'hypothalamus est silencieux pour sa sécrétion de GnRH, ou du moins elle est diminuée. Il va y avoir une augmentation de cette sécrétion de GnRH, et en clinique, on est capable de doser l'ALH et la FSH, l'œstradiol et la testostérone, Et là, on voit une augmentation de ces hormones. C'est le témoin de la puberté.
C'est-à-dire qu'en effet, on voit dès la vie fœtale, hein, dès le développement, dès le stade embryonnaire, on voit déjà que l'axe gonadotrope s'active.
Alors l'axe gonadotrope est une situation très paradoxale, très particulière, vraiment très spécifique. Son activation débute finalement très tôt durant le développement. Dès la 10e semaine de développement, il y a une activation de l'axe gonadotrope. Et elle devient véritablement dosable par des techniques extrêmement sophistiquées à mi-gestation. Et là, de façon assez extraordinaire, on est capable de montrer qu'il y a un dimorphisme sexuel très important entre les filles et garçons sur l'activation de cet axe gonadotrope. Et il va, durant la deuxième partie de la gestation, y avoir une inhibition de cet axe gonadotrope. Et donc, à la naissance, les taux de LH et de FSH, qui étaient très élevés à la mi-gestation, vont être proches de zéro, presque indosables.
Pendant l'enfance, tout ça s'est mis au repos.
Et oui, mais si ce n'est que juste après la naissance, il y a une petite période d'activation qu'on appelle la mini-puberté. Et cette période d'activation est extrêmement importante pour les pédiatres et pour les endocrinopédiatres. Pourquoi ? Parce que ça leur permet, comme l'expliquera Jean-Claude, d'investiguer finalement la situation de certains enfants qui pourraient avoir, et notamment des garçons, des anomalies du développement des caractères sexuels primaires, donc de la verge et des testicules. Et donc, à partir de là, il est possible de démontrer que cet axe a potentiellement une altération dans sa fonction. Puis après, au bout de, vers l'âge de 6 mois chez le garçon, un petit peu plus tard chez la fille, l'axe va de nouveau être au repos. Et cette fois-ci, il est complètement au repos, il est silencieux, on ne peut pas le stimuler facilement par des méthodes pharmacologiques. Et il va progressivement être réactivé. Et cette réactivation, comme je disais tout à l'heure, est une réactivation silencieuse cliniquement dans un premier temps.
Pour revenir justement sur cette mini-puberté, on voit qu'elle joue, qu'on voit hein, chez tous les mammifères, elle joue un rôle crucial pour la fertilité et la maturation du cerveau.
Alors là, je pense que Jean-Claude va pouvoir plus facilement vous expliquer cet aspect-là, parce que c'est un point qui est plus clinique et épidémiologique.
Je me tourne vers vous.
Alors cette mini-puberté, c'est quelque chose qui est effectivement, alors, comme le disait Nicolas Dourroux, important pour nous comme outil d'évaluation, mais... La nature n'a pas créé cette mini-puberté pour qu'on l'évalue. La nature a créé cette mini-puberté parce qu'elle est utile. Elle est particulière parce qu'elle n'est pas si répandue dans toutes les espèces. Et par exemple, les rongeurs l'ont de façon moins forte. Et on sait par exemple que chez les primates, si expérimentalement, on bloque cette mini-puberté, eh bien ça modifie le comportement des primates à l'âge adulte. Ça ne change pas leur maturation pubertaire ultérieure, mais sur le plan comportemental. Donc cette mini-puberté, qui reste un peu un mystère, hein, faut bien se le dire, elle joue certainement un rôle dans la maturation du cerveau, et un peu comme préparateur. Et elle est d'ailleurs très asymétrique, cette notion de dimorphisme sexuel, c'est quand il y a une asymétrie entre les deux sexes dans le déroulement des choses, eh bien elle est très précoce et relativement ramassée dans le temps chez le garçon, puisqu'elle dure en gros de l'âge de 15 jours à l'âge de 3 mois. Alors que chez la petite fille, elle est moins nette, mais elle dure plutôt de l'âge de 3 mois, à l'âge de 2 ans. Et donc du coup, elle est plus étalée dans le temps et elle est moins voyante, je dirais. Pour revenir à cet axe gonadotrope, les gens pensent que c'est un truc qui est complètement éteint et puis qui s'allume un beau jour au moment de la puberté, mais pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui est allumé en milieu de grossesse, ensuite qui s'éteint, ensuite qui se rallume pendant la puberté, ensuite qui se rééteint pendant l'enfance, et enfin qui se rallume au moment de la puberté. Donc c'est vraiment un système extrêmement dynamique.
En tout cas, quand ça se rallume, donc on a cette sécrétion pulsatile d'hormones GnRH qui est l'élément déclencheur de la puberté, mais une fois que c'est enclenché, on a cette sécrétion pulsatile des hormones, mais comment tout ça est maintenu par la suite, Nicolas Dourroux?
Alors, c'est un feedback. Alors, un feedback, dans notre jargon, c'est un rétro-contrôle permanent entre la synthèse et les hormones sexuelles et ce qui se passe au niveau de l'hypothalamus. Ce rétro-contrôle fait que, chez le garçon, il va y avoir en permanence un équilibre entre la quantité de GnRH synthétisée, notamment la quantité de kyspeptides, la quantité de LH et de FSH, en fonction de la testostérone. S'il y a une baisse de cette testostérone, il va y avoir une augmentation et un système qui va avoir tendance à réactiver un petit peu l'axe en disant bah, « j'ai pas assez de testostérone, il va falloir que j'en fabrique un peu plus, donc il y a plus de LH et de FSH ». Et cette plasticité qui est extrêmement importante pour, en hormonologie, en endocrinologie, elle est tout à fait différente chez la fille, dans le sens où c'est l'axe gonadotrope qui va contrôler l'ovulation. Et cette ovulation chez la fille, et c'est une plasticité, un dimorphisme extrêmement fort, elle est dépendante non pas d'un rétrocontrôle par l'estradiol négatif, elle est dépendante d'un rétrocontrôle positif par l'estradiol sur l'axe gonadotrope. Et c'est des mécanismes qui restent encore extrêmement peu connus et qui sont probablement très spécifiques d'espèces. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que chez la fille, tout dépend de la synthèse et de la croissance folliculaire par les ovaires, l'augmentation de l'estradiol par ces follicules, et notamment par les cellules qu'on appelle les cellules de la granulosa du follicule ovarien. Et cet estradiol va avoir un effet positif au bout d'un moment sur l'axe gonadotrope et sur l'hypothalamus, et va favoriser le pic ovulatoire qu'on appelle le pic ovulatoire de LH. Ce mécanisme de rétrocontrôle n'existe pas chez l'homme, et vous ne pouvez pas le recréer chez l'homme après la puberté.
Alors toujours du côté du cerveau, donc pendant la puberté, le cerveau subit sa propre transformation grâce à l'œstrogène et la testostérone qui sont produites par la croissance des ovaires et des testicules. Mais alors, quelles sont les transformations cérébrales lors de la puberté, Nicolas Deroux ?
Alors ça, c'est relativement compliqué à étudier parce que c'est très spécifique d'espèce. Donc il y a des études et des travaux d'imagerie qui ont montré qu'en effet, sous l'effet de l'estradiol, il y a une réorganisation d'un certain nombre de parties du cerveau qui participent probablement à certaines situations, certains comportements propres à l'espèce, à notre espèce et qui sont en lien avec le sexe.
Donc, comme par exemple le fait de voir plus de prise de risque, plus de soif d'aventure et de nouveauté.
Alors là, je pense que c'est difficile de faire un lien direct entre ces deux situations cliniques. C'est aussi pas mal le bien commun ou l'habitude qui dit que, en effet. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de modèles animaux qui permettent de l'affirmer définitivement.
Jean-Claude Carrel.
Alors. Ça, c'est plus le domaine des neurobiologistes hein, qui étudient finalement les conséquences de la puberté spécifiquement sur le cerveau. On sait par exemple que au cours de la puberté, le nombre de synapses, par exemple, diminue. Il y a une diminution des interactions synaptiques. Mais là, on est clairement en dehors du domaine que je pratique tous les jours. Mais clairement, le comportement et le comportement adolescent est la conséquence des sécrétions hormonales de la puberté. Alors, du coup, ça renvoie au fait que on a parlé de la variabilité de l'âge de la puberté. Eh bien, finalement, on sait que les comportements adolescents et les prises de risque adolescentes, elles surviennent pas de la même façon et avec la même fréquence selon l'âge de début de la puberté. Il y a énormément d'études dans le domaine l'épidémiologie et de la psychologie qui montrent par exemple que les enfants, garçons ou filles, qui ont eu leur puberté, alors non pas précoce, mais plutôt, je dirais, dans le premier quart, eh bien, ils ont plus d'utilisation de substances, plus de prise de risque à l'adolescence que les adolescents qui ont fait leur puberté dans le dernier quart. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde dans le dernier quart, mais cette variabilité, elle est extrêmement bien documentée.
Et à propos de variabilité, quels sont les autres facteurs qui peuvent jouer un rôle sur le déclenchement ou le non-déclenchement de la puberté? Quels sont ces facteurs environnementaux et génétiques qui influencent l'âge de la puberté? Restez avec nous.
Ain't no get out behind me, you guys. I can't stand 1 second more. I gotta keep that head on the floor. I'm getting more and more muscle. Mr. Jailer, open up that door, guys. I'm in a teenage rage.
Teenage Rage de The Cramps en direct sur France Culture, car nous parlons de puberté en compagnie de nos deux invités du jour. Nicolas Doroux, médecin professeur de biochimie à l'Université Paris-Cité et responsable de l'équipe INSERM, génétique et physiologie de l'initiation de la puberté qui fait partie de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Et Jean-Claude Carrel, chef de service endocrinologie, diabétologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. On vient de voir que la puberté est un lent phénomène de maturation neuro-endocrinienne qui se met en place dès la vie fœtale, que cette étape de la vie résulte d'un équilibre entre des signaux activateurs, des signaux inhibiteurs, déclenchés par des dizaines de neurotransmetteurs ou de neuropeptides. Maintenant, parlons des autres facteurs. Nicolas Doroux, quels sont justement ces autres facteurs qui influencent le déclenchement de la puberté ?
Alors, déjà, il y a des facteurs constitutifs au corps humain qui sont les facteurs génétiques. Il est évident, et ça c'est très bien documenté depuis de nombreuses années, qu'il y a un déterminisme génétique de l'âge de l'initiation de la puberté. Ce déterminisme génétique peut être finalement le reflet d'une mutation qui va avoir, dans ces cas-là, un effet très fort sur l'axe gonadotrope et sur son activation, et donc arriver jusqu'à une absence d'activation, voire une activation trop précoce. C'est ce qu'on appelle les maladies monogéniques en lien avec le timing de la puberté et l'initiation de la puberté. Au-delà de ça, il y a un très grand nombre de papiers qui ont été publiés ces dernières années, des études de population extrêmement importantes, en nombre de femmes qui ont été étudiées. Et cette fois-ci, on retrouve un petit peu ce qu'on disait en tout début, c'est-à-dire qu'on parle non plus de la puberté, parce que ce n'est pas possible de se souvenir finalement de l'apparition de la poussée mammaire, mais les femmes se souviennent relativement bien de l'âge de leurs premières règles. Et donc, il y a un certain nombre de travaux génétiques qui ont pu déterminer des loci au sein du génome qui étaient associés à un âge plutôt avancé, à un âge plutôt retardé des premières règles. Et ça, c'est un déterminisme génétique complexe, multifactoriel, qui dépend également de facteurs environnementaux qui vont interférer sur ce déterminisme génétique. Donc, deux situations particulières, une situation extrême, qui sont des maladies monogéniques avec une mutation, on a bien caractérisé ça, et un déterminisme génétique comme de nombreux traits quantitatifs.
À ces facteurs environnementaux, on a par exemple, on sait qu'il y a plus de 12 000 ans, chez les chasseurs-cueilleurs, la puberté commençait au même âge qu'aujourd'hui, entre 11 et 14 ans, mais au milieu du 19e siècle, on a constaté que l'âge moyen des premières menstruations est passé de 17 ans à 13 ans, au milieu du 20e siècle. Alors ça, comment ça s'explique, Jean-Claude Carrel ?
Il y a un facteur qui est clairement identifié comme jouant un rôle essentiel, c'est la nutrition. Et ça, ce qui est totalement indiscuté et indiscutable, il y a une théorie sur le poids critique et la notion d'un... les règles apparaissent au-dessus d'un certain poids. Et on sait que, par exemple, au 19e siècle, où les premières règles apparaissaient en moyenne à 16 ou 17 ans, eh bien, l'évolution du poids et de la taille était aussi beaucoup plus lente. Et les adolescentes étaient beaucoup plus maigres qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et on a vu, par exemple en Chine, des évolutions extrêmement importantes sur une trentaine d'années, puisque dans nos contrées, ça a mis un siècle, en fait, de passer de 17 ans à 12 ans et demi. Alors qu'en Chine, finalement, du milieu des années 70 aux années 2000, eh bien, ils ont pratiquement fait le même chemin dans un laps de temps beaucoup plus restreint. Et la nutrition et finalement l'accumulation de masse grasse joue un rôle vraiment important. Il y a une hormone qui s'appelle la leptine, qui est produite par le tissu adipeux et qui renseigne l'hypothalamus sur finalement le stock de masse grasse. Et si on est un peu finaliste, alors je sais pas si l'explication est vraie, mais je trouve qu'elle permet de voilà de se projeter dans comment ça marche, c'est que finalement le système empêche de faire une grossesse à une femme qui n'aurait pas les capacités énergétiques pour la mener à bien. Et donc, il faut avoir une certaine quantité d'énergie dans le corps pour mener à bien une grossesse. Et donc, voilà.
D'abord, la survie avant la reproduction. Voilà, Mais est-ce qu'on peut aussi parler ensemble, Nicolas Dourou, de ces autres facteurs qui peuvent inhiber l'axe gonadotrope? Je pense aux perturbateurs hormonaux, par exemple, le bisphénol A.
Alors, ce sont des facteurs, on ne sait pas finalement quel est leur rôle et leur contribution dans les variabilités qu'on a observées ces dernières, au cours du XXe siècle et à la fin du XIXe, dans le sens où les modèles expérimentaux montrent que ces facteurs, finalement, ont un double effet en fonction de la dose reçue et du temps d'exposition des rongeurs. C'est extrêmement difficile de modéliser ces effets parce que c'est ce qu'on appelle des courbes en U avec des effets qui sont plutôt activateurs à faible dose et plutôt inhibiteurs à forte dose. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir trouver la bonne dose qui essaye de mimer finalement ce qui se passe in vivo pour l'espèce humaine, ce qui est relativement compliqué. À côté de ça, on est quand même capable aujourd'hui, dans des modèles expérimentaux, de modifier l'âge de la puberté de la souris simplement par l'injection d'un produit à 7 jours de vie d'une souris. Et une puberté chez la souris survient entre 25 et 30 jours. Et donc, par l'injection de ce produit à 7 jours de vie, qui correspond globalement à la mini-puberté, un petit peu avant la mini-puberté de la souris, on est capable d'avancer la puberté de la souris d'environ 7-8 jours, ce qui est tout à fait considérable. Donc il y a véritablement, ou du moins potentiellement, l'effet de perturbateur endocrinien sur l'âge de la puberté.
Et on continue à parler justement de mini puberté avec notre reportage du jour. La mini-puberté, ce phénomène hormonal encore méconnu, intrigue les chercheurs. Décrite pour la première fois il y a à peine 20 ans, son rôle dans le développement et la vie reproductive reste encore mal comprise. Alors, à quoi sert-elle vraiment? Que se passe-t-il si elle est perturbée? On continue d'en parler avec vous, Louange, et bonjour.
Bonjour, Natacha.
Alors, pour en comprendre les ressorts, vous êtes rendue à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Cité, où une équipe a récemment mis en lumière certaines de ses caractéristiques.
Oui, en effet. En bloquant à l'aide d'une molécule le pic hormonal caractéristique de cette phase, la chercheuse Céline Guigon et sa doctorante Noalik Vikens ont étudié les effets de la suppression de la mini-puberté chez un modèle de souris. L'analyse histologique et transcriptomique des ovaires leur a permis d'en observer les conséquences à court et long terme. Résultat, même si l'aspect cyclique et les capacités reproductives ne semblent pas affectées, la période de reproduction est prolongée et le nombre de follicules diminue. Ces données sont en cours d'approfondissement et elles pourraient, à l'avenir, éclairer les conséquences d'une mini-puberté perturbée chez l'humain et notamment chez les enfants prématurés.
Alors nous, on s'intéresse à la mini-puberté chez la femelle. Et on appelle d'ailleurs cette phase mini-puberté parce que l'environnement hormonal est proche de celui qu'on observe à la puberté. Donc on va avoir non seulement les hormones sexuelles comme l'œstradiol qui va avoir des niveaux très importants, mais également des hormones de l'hypophyse qu'on appelle la LH et la FSH qui présentent des concentrations très très élevées. Et pour le moment, même si c'est une phase très conservée qu'on va retrouver chez la souris, le lapin, la brebis, la petite fille, on ne sait pas du tout à quoi ça peut servir et c'est l'objet de nos études.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le modèle expérimental que vous avez mis en place ?
Oui, alors on a utilisé des souris. Et chez les souris, cette mini-puberté, elle arrive à peu près autour de la deuxième semaine après la naissance. Et lors de cette mini-puberté, on va injecter un médicament qui va permettre de réduire ces niveaux hormonaux. Ce médicament-là, c'est un antagoniste d'un récepteur à une hormone qui va être précurseur en fait, de la LH et de la FSH. Donc finalement un antagoniste du récepteur de la GnRH. Et le fait de bloquer le signal de cette GnRH-là va ensuite diminuer l'ALH et la FSH produites dans le cerveau, et ce qui va entraîner aussi la réduction de la production après dans les ovaires de l'œstradiol.
Aujourd'hui, vous n'avez pas pu nous montrer en direct l'expérience animale parce que c'est très réglementé, mais du coup, qu'est-ce qu'on regarde là ?
Donc sur ce graphique, on voit les niveaux hormonaux qui sont produits, donc l'ALH, la FSH et l'œstradiol. on voit que les niveaux au moment de la mini-puberté finalement sont aussi hauts, voire plus hauts, que les niveaux qu'on retrouve lors de la vie reproductive. Et lorsqu'on injecte ce produit pharmacologique, on va avoir une diminution très importante des niveaux de LH et de FSH de plus de 80% et une diminution de plus de 50% de l'œstradiol. Donc seulement lors de cette période de mini-puberté, et on va regarder plus tard ce qui va se passer dans les ovaires à la fin de la mini-puberté, mais également à la puberté et pendant la vie reproductive et à la fin de la vie reproductive.
C'est les coupes d'ovaires qui ont été réalisées à l'aide de ce qu'on appelle un microtome, qui fait des coupes de 5 micromètres d'épaisseur en ce qui nous concerne. Et en fait, là, vous voyez ce qu'on appelle des rubans de paraffine, puisque les ovaires ont été inclus dans de la paraffine. Et on coupe donc l'intégralité de l'ovaire du début à sa fin. Et vous voyez donc les rubans qui vont être ensuite montés sur des lames en verre, qui vont être colorés en hématoxyline néosine et qui vont être ensuite numérisés. Je vais vous montrer des coupes sous un microscope. Si on grossit un petit peu, au moment de la mini-puberté, ici vous voyez des petites structures arrondies, donc ça correspond aux follicules de la réserve. Et là vous voyez un énorme ovocyte par rapport à celui-là, vous voyez le changement de taille. Il faut savoir que l'ovocyte, arrivé à terme, c'est quand même la plus grosse cellule de l'organisme. Et en fait, donc ce follicule va grossir et autour, vous voyez des cellules qui sont les cellules de la granulosa. Il va y avoir une maturation synchrone entre donc, ces cellules de la granulosa et cet ovocyte, qui va culminer ensuite grâce à tout un tas d'interactions complexes avec le cerveau qui fait qu'il va y avoir cette maturation des follicules qui va s'opérer.
Une fois que vous avez traité et supprimé en partie cette mini-puberté, qu'est-ce que vous étudiez, qu'est-ce que vous cherchez à trouver ?
On va essayer de regarder les processus qui permettent à l'ovocyte d'atteindre l'ovulation, donc en regardant les ARN et les signatures moléculaires. Et on va regarder tous les processus ovariens qu'on connaît aujourd'hui, voir lesquels sont dérégulés potentiellement par l'antagoniste qu'on a injecté lors de la mini-puberté.
Donc vous séquencez l'ADN et vous regardez s'il y a eu des modifications que vous auriez induites par ce blocage de la mini-puberté.
Alors c'est l'ARN qu'on va séquencer, donc oui, on va faire un séquençage complet des ARN qu'on retrouve dans les ovaires, et via l'expression finalement des gènes et donc la production d'ARN, on va avoir une idée des processus qui vont être dérégulés vu qu'il y a certains gènes que l'on sait associer à certains processus comme l'ovulation par exemple.
Et jusque-là vous avez trouvé quel résultat ?
Le traitement par l'antagoniste du récepteur de la GnRH, on a établi chez la souris récemment que ça n'avait pas d'impact sur le déclenchement de la puberté, ça n'a pas d'impact sur la cyclicité sexuelle, ça n'a pas d'impact non plus sur la vie reproductive. En revanche, ça aurait un impact sur la période équivalente à la ménopause, puisqu'on voit que chez les souris traitées, on a un allongement de la durée de vie reproductive. Et quand on a essayé de comprendre d'où ça venait, en fait, on a vu que c'était associé à des changements de type neuro-endocrinien chez ces souris. Et quand on regarde au niveau ovarien, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de follicules de la réserve folliculaire dans lequel l'individu puise tout au long de sa vie jusqu'à l'arrêt de la fertilité. Eh bien, on s'est aperçu que ces souris traitées avaient un changement du nombre de ces follicules. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on continue le projet pour essayer de comprendre comment on a pu arriver à cette modification de la réserve des follicules qui peut expliquer cet allongement de la vie reproductive. Et en ce qui concerne les études translationnelles, c'est effectivement le but de nos recherches, c'est de, après, associer nos travaux, nos résultats à ce qui se passe chez la femme. Et donc, de regarder, grâce à ce modèle, tout en restant très humble, puisque effectivement, c'est la souris et qu'il y a quand même des différences assez notables, mais de faire des extrapolations et notamment de voir s'il peut y avoir des points de convergence entre des anomalies qu'on retrouve à la mini-puberté chez la petite fille et des traitements qui vont entraîner des anomalies de la mini-puberté chez la souris.
Merci, Louanger. Tous nos reportages sur le terrain sont podcastables. Retrouvez notre collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'appli Radio France, bien sûr. Jean-Claude Carrel, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Alors, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est un modèle où on manipule expérimentalement pour essayer de comprendre à la fois le rôle et le fonctionnement. Ça doit nous rendre effectivement très humbles à l'utilisation de tout médicament chez le nouveau-né, finalement, puisque on utilise très peu de médicaments chez le nouveau-né, et en particulier de médicaments à action hormonale, parce qu'on voit bien que les médicaments à action hormonale chez le nouveau-né peuvent modifier la mini-puberté. En revanche, ça pose une question que les gens se posent souvent, qui est, si j'ai mes règles tôt, est-ce que ça veut dire que je vais avoir ma ménopause plus tôt? Une question qui est souvent posée. Il y a eu pas mal d'études de relativement petite taille qui ont essayé de répondre à cette question avec des résultats assez variables. Et récemment, il y a une étude nordique de plus grande importance qui a été faite sur plusieurs centaines de milliers de femmes qui répondent de façon assez solide que la réponse est non, et en fait que l'âge des premières règles n'influence pas l'âge de la ménopause. Ce qui est, voilà, mais là on est dans un modèle expérimental où on analyse les choses de façon très précise, et là moi je vous réponds avec des données épidémiologiques sur des centaines de milliers de personnes, donc on voit bien qu'on est dans un registre qui est différent.
Pour revenir sur le registre de la recherche fondamentale, Nicolas Doreau, pour compléter l'écoute de ce reportage, ou peut-être pour l'ouvrir, quels sont à vos yeux les enjeux actuels de la recherche sur la puberté?
Alors, comme on l'a dit finalement depuis le début de cette émission, c'est la puberté, c'est un processus neurodéveloppemental qui débute très tôt et qui est modulé par les hormones, qui favorise la synthèse des hormones, mais qui est également modulé par les hormones. Et je crois bien que cet exemple d'approche expérimentale pour bloquer la mini-puberté cherche aussi un petit peu à observer ces effets. Globalement, on peut considérer que si on s'intéresse à la puberté, et peut-être encore plus facilement si on s'intéresse à la puberté précoce, qui est un processus qui est très particulier dans le sens où c'est une situation pathologique qui est déterminée par le timing de la puberté. Mais comme finalement les études qui ont été menées notamment par l'équipe de Jean-Claude et Jean-Claude Carrel montre bien que finalement un enfant qui a eu une puberté précoce n'a pas à long terme des conséquences sur sa vie de reproduction globalement reproductive. Donc on est dans une situation où on est sur une anomalie qui est un timing trop rapide d'un processus neurodéveloppemental. Si jamais on laissait l'histoire naturelle de cette maladie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque les enfants sont traités pour bloquer l'axe gonadotrope, si on laissait l'histoire naturelle, ils auraient leur puberté plus tôt. Et donc, on se trouve dans une situation où on peut considérer qu'on est sur un modèle de maladie neurodéveloppementale qui est déterminé essentiellement par son timing. Et donc là, à partir de là, on peut essayer de modéliser d'autres pathologies neurodéveloppementales en travaillant sur la puberté précoce, qui pourraient concerner tout simplement le développement des fonctions cognitives supérieures, simplement pour essayer de mieux comprendre quelles sont les modifications qui surviennent dans le cerveau au cours du temps, en fonction de l'âge et en fonction de l'environnement hormonal.
Je veux dire que la puberté précoce, c'est un pan de la recherche qui est bien plus large qu'on l'imagine.
C'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse dans le laboratoire, on essaye de plus en plus, et tout à l'heure, Jean-Claude Carrel parlait de ce qu'on appelle cet élagage synaptique qui survient dans le cerveau, qui fait que l'enfant va pouvoir développer des fonctions cognitives, un comportement en lien avec son âge. Et bien, au niveau de l'hypothalamus, on observe aussi des modifications importantes des inférences synaptiques sur les neurones générales et sur les neurones peptides. Ces modifications qui ont été modélisées, bien sûr, essentiellement chez la souris, sont d'une certaine façon similaires à ce qu'on peut observer au niveau du cortex ou dans d'autres régions du cerveau. Donc, comprendre les mécanismes qui permettent d'activer trop précocement. Pourquoi ? Parce qu'on préfère toujours travailler sur un trait qui est un peu majeur, c'est celui de la puberté précoce, pourrait nous aider à finalement mieux comprendre d'autres fonctions.
Alors, cette puberté trop précoce, quels sont les risques pour la santé, Jean-Claude Carrel? Est-ce que le fait d'avoir ses règles plus jeunes, est-ce que c'est un facteur de risque de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou encore de cancer du sein? Enfin, qu'est-ce que nous disent les grandes bases de données que l'on a du côté de l'épidémiologie?
Alors, effectivement, il y a énormément de données qui sont publiées, dont le principe est de prendre des centaines de milliers de personnes, véritablement des bases avec un demi-million de personnes. Donc là, il ne s'agit pas de gens qui ont fait leur puberté précoce ou tardive, mais on est toujours dans la variation normale de la puberté avec un quart qui était plutôt en avance et un autre quart qui était plutôt en retard. Et puis de regarder 30 ans, 40 ans, 50 ans après, est-ce qu'il y a des maladies dont la fréquence est différente? Et effectivement, avec la puissance de ce type d'études, eh ben, les chercheurs, les épidémiologistes trouvent des choses. Ils trouvent énormément de choses. Le risque de cancer du sein, par exemple, qui est augmenté quand les règles sont un peu plus précoces. Le risque de cancer de l'endomètre, qui, lui, par contre, est augmenté quand les règles sont plus tardives. Le risque cardiovasculaire, qui est augmenté quand quand la puberté est plus précoce, que ce soit chez la fille ou chez le garçon. Mais et donc voilà, donc ça, ce sont des données qui sont assez solides, hein, et qui sont publiées dans les très grandes revues. Là où il faut faire attention, et parfois les médias se jettent un peu sur ces données de façon, à mes yeux, excessive, hein, faut faire attention à deux choses. La première, c'est ce que les statisticiens appellent l'effect size, c'est-à-dire la taille de l'effet, parce que c'est bien joué d'avoir un truc significatif statistiquement, mais encore faut-il que la variation ait un sens commun. Et c'est des variations qui sont souvent assez infimes, avec des variations de quelques pourcents ou 10%, donc des variations assez faibles du risque. Et la deuxième chose, c'est que l'association entre règles ou puberté plus précoce ou tardive et ces maladies ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité. Donc c'est simplement un lien corrélatif, hein, mais il peut très bien y avoir un facteur qui est au-dessus, qui d'un côté va favoriser le développement de la puberté, et de l'autre côté joue un rôle dans le risque de telle ou telle maladie. Et ça, on le voit bien de façon intéressante avec les études génétiques, qui montrent que finalement les déterminants génétiques de la puberté sont aussi partagés avec les déterminants génétiques de beaucoup d'autres maladies.
Et alors, pour conclure, Jean-Claude Carrel, là on parle des pubertés trop précoces, mais alors quels sont aussi les risques dans le cas des retards de puberté?
Alors, en cas de retard de la puberté, eh bien les risques et les questions que l'on se pose, c'est que, comme Nicolas Deroux l'a dit tout à l'heure, eh bien parfois ça dénote des maladies qui font que la puberté ne se développe pas. La puberté en retard, ça peut parfois être le signe que quelque chose ne va pas dans le corps, et donc il y a beaucoup de maladies chroniques. Bon, l'anorexie mentale, par exemple, retarde la puberté, donc l'absence de règles, ça peut être le signe qu'il se passe quelque chose. Et puis, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont juste un peu programmés pour faire leur puberté en retard, qu'il est utile d'évaluer et parfois de leur proposer des traitements pour accélérer un petit peu le développement de la puberté, parce que c'est des adolescents qui sont souvent en fait un peu malheureux un peu en retrait par rapport à leurs camarades et voilà, donc il nous arrive assez souvent de leur proposer des traitements pour accélérer les choses.
Ouais, puisque le second risque, c'est aussi l'augmentation de l'ostéoporose à l'adolescence. On est arrivé à la fin de cette discussion. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais un grand merci Nicolas Deroux, un grand merci Jean-Claude Carrel de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on change complètement de sujet. On vous parle des poissons lanternes et de réchauffement climatique. C'est la chronique avec science.
Comment les poissons lanternes sont pris au piège avec le changement climatique? Les poissons lanternes, ce sont des petits poissons qui ont la particularité d'être bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils produisent naturellement de la lumière. Alors attention, il ne faut pas les confondre avec des baudroies abyssales. Si les poissons lanternes migrent parfois très profondément, jusqu'à 1000 mètres la journée, ils sont beaucoup plus petits et ils n'ont pas de grosses lanternes tombantes, mais des photophores répartis tout le long de leur corps qui s'ajustent à la lumière ambiante et les aident à se fondre dans le décor. Au total, plus de 200 espèces de poissons lanternes parcourent l'océan, mais elles ne sont pas réparties uniformément. Camille Rins est chercheuse doctorante au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, dans le laboratoire Boréa, à la station marine de Dinard.
On les trouve dans vraiment tous les océans sur la planète. Donc c'est une famille qui est très représentée partout, dans toutes ces profondeurs-là. C'est même la famille la plus importante. En termes d'abondance, quand on regarde les poissons dans ces profondeurs-là, c'est les poissons lanternes qui dominent en fait. Et voilà, on les trouve vraiment dans tous les océans. On pourrait penser que l'océan a une très grande connectivité, puisque tous les océans sont reliés. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup, de plus en plus, qui émerge, qui est One Ocean, pour dire un océan unique, qui fait vraiment référence au fait que tous les océans sont reliés. Mais malgré tout, on ne retrouve pas les mêmes espèces dans l'océan Antarctique et à l'autre extrémité, dans l'océan Arctique. Il y a quand même des facteurs qui vont faire que les espèces s'organisent dans des communautés bien particulières. Et nous, on s'intéresse à étudier comment ça s'organise en communauté et à quoi c'est dû.
Et parce que ces poissons s'organisent en communauté, une analyse uniquement par espèce, comme c'est le cas habituellement, n'est pas judicieuse. On louperait des informations. C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans Global Change Biology a mené une analyse biogéographique pour comprendre la répartition des espèces de poissons lanternes et comment ces communautés sont affectées par le changement climatique. Et ce sont deux communautés particulières qui ont attiré l'attention des scientifiques. Une communauté subtropicale de 73 espèces et une communauté australe de 19 autres près du pôle sud. Résultat, il existe une barrière thermique aux alentours de 8 degrés, un mur invisible qui sépare les deux communautés.
On a vu que ça avait toute la même limite de tolérance de température. Par exemple, les poissons de la communauté australe, elles avaient toute cette limite maximum qui était située autour de 8 degrés. Au-dessus, on retrouvait jamais ces espèces-là. Et inversement, les poissons lanternes de la communauté subtropicale, on ne les trouvait jamais en dessous de cette température-là d'environ 8 degrés. Ensuite, on a aussi fait des modèles et ça a confirmé le fait que c'était vraiment que la température qui jouait, qu'il n'y avait pas d'autres facteurs qui entraient en jeu dans cette distinction entre les deux communautés. Et donc, avec le changement climatique, on s'attend à ce que globalement, toute la planète se réchauffe et donc l'océan se réchauffe globalement. Et donc, la barrière des 8 degrés va être de plus en plus proche du pôle. Et donc, en fait, avec ce réchauffement, les poissons de la communauté subtropicale qui avant pouvaient pas atteindre certaines zones qui étaient trop froides pour eux, ils n'étaient pas adaptés pour survivre à des conditions aussi extrêmes, et bien ils vont pouvoir avoir accès à de nouvelles zones, de nouvelles régions qui se réchauffent. Et au contraire, les poissons de la communauté australe qui sont adaptés aux eaux froides et qui supportent pas les températures un peu plus élevées, et bien ils vont devoir se déplacer vers le pôle pour rester à des températures qui leur conviennent.
Selon leurs projections, l'habitat des communautés australes pourrait perdre 11 millions de kilomètres carrés, soit, à titre de comparaison, plus de 80% de la superficie du continent antarctique. Les poissons lanternes, parce qu'ils font de très grandes migrations entre les fonds marins et la surface, sont des membres indispensables de la chaîne alimentaire marine. Ce sont des prédateurs du krill, ces petits crustacés, et des proies des grands prédateurs comme les mammifères ou les oiseaux marins. Pour limiter le déplacement de cette barrière thermique, la seule véritable solution reste évidemment la lutte contre le changement climatique. Mais à plus court terme, la création d'aires marines protégées pourrait permettre de réduire les autres pressions humaines exercées sur ces espèces. La suite de cette étude sera de déterminer quelles zones doivent être protégées en priorité. L'autre perspective est de comprendre quelle sera l'influence de cette réduction d'aires de répartition sur les autres espèces marines.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.